et se bat. Dans les entrailles d'un camion bondé à craquer, immergé au milieu de piaillements de dizaines d'autres étudiants aventuriers, me voilà à Calicochon, sur le maternel dos de la révolution toute fraîche. La mère révolution, nous entendons-nous chanter, a besoin de guérison. Et sur nous, elle a daigné jeter son dévolu. La route nous mènerait à Goma, à un hôtel à beaucoup d'étoiles, au pied du Miragongo et au bord d'un lac d'un bleu si céleste qu'on se croirait à la lisière du paradis. Et là-bas donc, là-bas dans les parages de l'Éden, nous suivrions une formation qui ferait de nous le futur excellence et éminence de la République à l'air.
Je me suis enfuie au Congo. J'ai été violée. J'ai attrapé une grossesse.
Alors, je ne vais pas vous proposer un quiz dans quelles pièces de danse interviennent ces documents sonores, mais je vais essayer de les expliciter un peu. Donc, on a entendu un discours de Che Guevara, un texte enregistré depuis une prison congolaise, des entretiens avec des génocidaires rwandais, des témoignages de femmes violées dans des pays en guerre, des éclats de violence dans les rues de Belfast. Et on pourrait aussi ajouter des voix de soldats portugais ayant participé aux guerres décoloniales, des fragments de discours d'Hitler, de Pétain, de Camus, de Sartre, des témoignages de travailleurs immigrés, des rumeurs de manifestations chinoises et grecques. C'est la liste que j'ai établie, on pourrait sans doute la compléter. Et elle est faite des documents sonores qui font irruption dans des pièces d'Anne Teresa de Kersmaeker, de Faustin Lignecula, de Dorothée Munyaneza, de Una Doherty, de Vera Montero ou encore de Maggie Marin. Tous ces sons viennent faire intervenir dans le champ chorégraphique en dehors, un hors-champ politique ou social. Les pièces de danse dans lesquelles ils figurent abordent des situations de crise, de conflit. Elles manifestent le réel le plus violent dont on a pu parler, non pas de façon allégorique, mais en intégrant du matériau référentiel indiciel. Ces fragments sonores peuvent prendre la forme d'archives historiques, donc de voix très reconnaissables appartenant à un patrimoine partagé, ou encore de documents qui ont été constitués par le chorégraphe lui-même. Dans certaines compositions, on a pu l'entendre, les documents sont tissés avec d'autres données sonores, ils se fondent dans une trame plus complexe dont ils ne sont qu'une couche. Ils sont donc considérés comme une matière musicale. Dans d'autres, ces fragments sont indépendants d'un montage musical et s'affichent plus ouvertement comme des matériaux bruts, des blocs de sens. dans la dramaturgie même des pièces, le corps peut réagir par rapport au son, par rapport à ce document sonore qui est projeté sur le plateau, mais le corps et le son peuvent aussi se constituer comme deux trames indépendantes. Et il faut aussi souligner que ces documents interviennent dans des démarches extrêmement différentes. Ils sont manipulés autant par des artistes qui revendiquent un positionnement politique que par d'autres qui ne prétendent pas forcément une démarche critique. Dans tous les cas, le point commun de toutes ces utilisations du document sonore, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est qu'elle crée une distinction stricte entre la réalité documentée et le corps du danseur au plateau. Parce que mobiliser un document sonore dans sa matérialité, c'est justement un moyen de ne pas faire corps avec le document, au sens de ne faire qu'un ou former un tout. Or, sur les scènes contemporaines et la théâtre et danse réunies, on a pu voir se multiplier ces dernières années des approches qui privilégient la présence de ce que j'appellerais, de ce que les artistes eux-mêmes appellent des corps archives ou des documents vivants. Il s'agit d'inviter le réel sur le plateau à travers la présence d'individus qui viennent rendre compte d'une expérience vécue et qui charrient leur réalité sur scène avec eux en créant parfois l'illusion que celle-ci nous apparaît sans filtre. Et les pratiques du témoignage ou du verbatim, dans lequel les acteurs incorporent une matière documentaire en adoptant le langage physique et les inflexions de la parole des personnes qui jouent, seraient de bons exemples de la façon dont on peut absolument faire corps avec une matière documentaire. C'est lorsqu'une une présence physique et la réalité documentée se concentrent en un même point. En revanche, les pièces chorégraphiques qui mobilisent un document sonore et qui le gardent tel quel maintiennent forcément un écart entre les corps et la réalité documentée. De ce fait, la présence de cette matière dans une pièce de danse vient redessiner les rapports entre le visible et l'audible. Le corps sur scène n'est pas l'unique centre d'attention. Il doit se positionner par rapport au document et en créer les conditions d'écoute. Parfois même, il en vient jusqu'à se mettre en retrait, s'immobiliser ou s'effacer des zones de visibilité. Et là, l'intervention du document entre dans une évolution historique sur cette remise en question du cadre spectaculaire dont on a pu parler par la danse conceptuelle. Et André Lepecky analyse justement la pièce de Vera Montero à Danse à dos et gestir, qui date de 1995, comme une pièce manifestant une suspicion du visible de la part de la chorégraphe. Cette pièce se construit, c'est une pièce très courte qui dure 14 minutes, et elle se construit en grande partie avec un montage sonore qui est fait d'extraits d'entretien de soldats portugais traumatisés par les guerres des années 60 en Afrique, des fragments de musique sacrée, La Passion selon Saint Matthieu, des réflexions d'un romancier portugais. Et ce montage d'abord intervient dans l'obscurité la plus complète, le corps de la danseuse est invisible, puis il se poursuit en lumière alors que la danseuse réalise une série de gestes qui ne forment pas un flux harmonieux, mais un mouvement troué de pause, avec une écoute qui est rendue absolument visible dans son visage et dans ses gestes. Lepecky commente « Je vois dans le déplacement qu'elle opère, de l'œil habituellement consacré à l'appréciation de la danse, à l'oreille, une manifestation de résistance à l'anesthésie culturelle. » Donc, par anesthésie culturelle, il entend cette situation du Portugal des années 90 où il y a un complet refoulement du passé colonial du Portugal. Montero, ici, ne vient pas questionner la violence politique par des gestes mimétiques d'une situation de crise ou de conflit, mais en créant une situation d'écoute dans laquelle son corps vient servir de contrepoint et d'interlocuteur pour le document. Dans une esthétique tout à fait différente, dans laquelle le corps se fond effectivement dans une qualité qui est celle de la violence documentée, Dorothée Munhaneza et son collaborateur Alain Mahé travaillent toutefois très subtilement dans la présence du document sonore. Dans « Samedi détente », qui est une pièce de 2014, donc post-documentary turn et conceptual turn, la pièce qui est construite autour du récit autobiographique de la chorégraphe sur la façon dont elle a vécu enfant les mois du génocide au Rwanda. La chorégraphe donc se retire de la zone de visibilité lorsqu'intervient l'archive sonore qu'on a entendu dans le montage. Ces deux camarades à la scène, Alain Mahé et Nadia Beugré, écoutent des témoignages de génocidaires penchés sur un poste de radio. Nadia Beugré réalise quelques traversées latérales de la scène en se propulsant au sol, mais revient toujours au point d'écoute après quelques pas. Donc il y a une focalisation sur ce lieu d'écoute et la façon dont on se relationne à lui. Et dans Unwanted, la pièce suivante de la chorégraphe, qui date de 2017, la scène est bel et bien un espace de mise en corps de témoignages à travers le mouvement et le chant. Cependant, les témoignages en Kinyarwanda et traduits en français par Dorothée Munyaneza, qui viennent rythmer à intervalles réguliers la pièce, ne sont pas diffusés dans la scène. Ils sont diffusés depuis le seuil, par un haut-parleur qui est dans la salle, du côté du public, à côté d'Alain Mahé qui mixe les différentes couches sonores. Et lorsque Dorothée traduit ses témoignages en direct au micro, elle reste dans l'espace de la salle. Elle ne surexpose pas son corps sur scène. Et dans les moments où le témoignage est déjà enregistré, où Dorothée ne le traduit pas au présent, ou bien dans un moment où il n'y a absolument aucune traduction, où nous parvient seulement cette voix dont on ne comprend pas ce qu'elle dit, les actions réalisées sur scène sont extrêmement minimales. Manipuler des chutes de papier, s'allonger au sol. Et l'espace de la scène ne prend pas le dessus sur l'attention. Ces quelques exemples nous poussent à penser à un faire corps avec le document, non pas dans le premier sens que nous avons mentionné, celui de ne faire qu'un, mais dans la création d'une relation entre un dedans et un dehors, des corps sur scène et un hors-champ convoqué par le son. Assumer le matériau sonore comme une réalité hétérogène, pour mieux le mettre en perspective, contre la fusion, c'est peut-être dans cet écart-là que se crée l'espace pour une démarche critique, à condition de donner une place particulière à cet audible et de le questionner. Et donc, pour travailler cette hypothèse, je voudrais voir comment se travaille cet écart, comment il est habité dans deux pièces très différentes. Cette comparaison va aussi être importante historiquement, parce qu'il s'agit d'une pièce qui, d'après moi, est la première pièce dans laquelle intervient un document sonore, mais peut-être que vous aurez d'autres pistes, une pièce de 84 et une pièce de 2006. Chacune des deux mobilise un document sonore de plusieurs minutes, et non pas une construction de fragments, mais un bloc intelligible, qui renvoie à des situations de crise politique qui ont secoué un même pays. Saviez-vous qu'on parle tout autant du Congo dans Elena Zaria d'Anne Teresa de Kersmaeker et dans Sur les traces de dinosaures de Faustin Lignacoula? C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Mais donc, dans la pièce d'Anne Teresa de Kersmaeker intervient un discours de Che Guevara sur la crise du Congo en 64, qui va aboutir à la prise de pouvoir de Mobutu. Dans Sur les traces de dinosaures de Faustin Lignacoula, qui date de 2012, on a une réflexion d'un ex-révolutionnaire qui enregistre son témoignage depuis la prison, où il est après avoir été accusé de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2006. Le rapprochement pourrait sembler anecdotique, soutenu seulement par le thème du document, mais il va nous permettre de distinguer deux pôles d'utilisation du document en danse, qui pourront nourrir nos réflexions sur la façon dont la danse dialogue avec le réel et peut-être des réflexions sur une certaine périodisation. Anne Teresa de Kersmaeker fait intervenir ce document dans une proposition non narrative, surtout attachée à la qualité dansante, donc peut-être ce serait le « not beyond », à une émotion produite par les formes et les rythmes, et qui affirme un écart entre le mouvement dansé et le document, qui conserve l'hétérogénéité de façon très forte. Faustin Lignacoula, dans une forme narrative, qui est construite sur un entrelacement de la danse et du récit, avec une figure du chorégraphe-conteur, vient habiter cet écart et tisser une relation de dialogue. Dans les deux cas, la convocation d'un hors-champ de la danse par le document sonore crée des effets de sens qui poussent aussi à lire les pièces dans leur contexte et nous invitent à penser comment peut apparaître un discours politique dans et par la danse. Donc, en 84, Anne Teresa de Karsmaker fait figurer une archive historique au cœur de sa pièce Hélène Azaria. J'emploie le terme d'archive plutôt de document, dans la mesure où la présence d'un tel matériau sur scène ne répond en rien à une démarche d'investigation, d'enquête ou à une volonté didactique. Rien dans le dispositif n'explicite quelle est la réalité documentée. Et donc l'archive est prélevée comme un bloc de réel issu du passé. Et elle apparaît comme un élément hétérogène qui vient perturber l'univers clos de la chorégraphie. Elle se juxtapose au mouvement des danseuses. Chacune des deux réalités, l'archive et le mouvement des danseuses, restant sur un plan séparé et ne prenant de sens commun que dans l'interprétation du spectateur et sa réception. Si on remonte seulement de 2 années dans le temps, on se rend compte que Anne Teresa de Karsmaker avait déjà effectivement travaillé sur une matière documentaire, mais qui avait été manipulée par un musicien. Il s'agissait de Come Out, le troisième mouvement de Phase. Et ce morceau, Come Out, créé par Steve Reich, avait été créé au Town Hall de New York en 64, dans le cadre d'une manifestation de soutien à 6 jeunes hommes noirs accusés de meurtre pendant les émeutes de Harlem, arrêtés par la police et violemment battus. C'est un militant du mouvement des droits civiques qui a confié à Reich 10 heures de témoignages des jeunes hommes, matière au sein de laquelle le musicien a décidé de garder une seule phrase et de lui appliquer sa technique du phasing. 2 magnétophones qui démarrent en même temps et qui se désynchronisent progressivement. Ce morceau est assez important et il a une place centrale dans un travail que fait un chercheur qui s'appelle Pierre-Yves Massé, qui a analysé les relations entre musique et documents sonores. Et pour lui, le travail de Reich sur ce morceau est absolument représentatif de la façon dont une matière documentaire peut s'intégrer au tissu de l'œuvre et perdre sa qualité d'élément étranger, c'est-à-dire comment le document peut se faire musique. Mais il souligne que malgré cette musicalisation du document, Come Out trouve sa source, je cite, non pas dans l'appréciation des qualités musicales d'une voix, mais plutôt dans l'événement particulier dont cette voix porte le témoignage. La pièce musicale existe parce qu'effectivement, il y a eu cet acte de violence perpétré à l'égard de ces jeunes hommes. Et j'ajouterai que plus encore, la création de ce morceau est un véritable acte politique dans la mesure où elle a été pensée dans une visée très pragmatique qui était celui d'acquitter les frais d'avocat du jeune homme lors de son procès avec l'argent récolté avec ce morceau. Malgré tout, le morceau en lui-même est une mise en valeur des qualités mélodiques d'une voix explorée en profondeur par la mise en boucle et le déphasage. En créant une chorégraphie à partir de Come Out en 82, près de 20 ans plus tard, Anne Teresa de Karsmaker reprend la logique de composition de Reich en adoptant au niveau gestuel un schéma d'accumulation par décalage. On pourrait même aller jusqu'à dire que l'adoption par la chorégraphe de ce matériau lui confère d'autant plus une identité musicale, dans une démarche où le mouvement semble faire corps avec la trame musicale qui l'accompagne. Est toujours présentée avec les 3 autres pièces qui constituent Phase, sans aucun élément contextuel autour de la genèse de la musique de Reich, le morceau perd tout à fait sa portée référentielle et la marque de l'engagement politique initial. Dans ses carnets de chorégraphe, Anne Teresa de Karsmaker reconnaît d'ailleurs que ses choix chorégraphiques ne sont aucunement liés aux émeutes de Harlem et que la série des 4 pièces était bien plutôt un manifeste en faveur de l'abstraction chorégraphique. Pour Hélène Azaria, la démarche est formellement très différente. Le document sonore n'est pas retravaillé musicalement. La chorégraphie ne se constitue d'ailleurs pas dans un rapport aussi formel aux éléments mobilisés dans la pièce. Le silence a été le point de départ de la recherche. Et la trame sonore finale juxtapose plusieurs matériaux hétérogènes. Entre de longues plages de silence, dans lesquelles seuls sont audibles les bruits de la danse, les respirations, les glissements au sol, le choc des objets, apparaissent des extraits d'aria en sourdine, le son violent d'une machine à vent, également des fragments de textes lus par des danseuses, Dostoïevski, Tolstoï et Weill. Et c'est juste avant la section d'or de la pièce, qui est constituée par une vidéo d'immeuble qui s'écroule, et on sait à quel point la question des proportions est importante dans les constructions d'Intersat Kersmaker, donc ce n'est pas un hasard si cet écroulement intervient à ce moment-là de la pièce. C'est juste avant ça qu'on entend l'enregistrement d'une voix solennelle en espagnol, que nous avons entendue au début de l'enregistrement, qui a longtemps été identifiée par la chorégraphe et la critique comme étant la voix de Fidel Castro. Cet enregistrement dure le temps de toute une séquence, de tout un solo. Dans le projet d'Intersat Kersmaker, il ne s'agissait assurément pas que la voix prononçant le discours soit identifiée et questionnée. Malheureusement, le spectateur étant ce qu'il est, la voix a été identifiée et questionnée. C'est une des premières choses que soulignent les critiques. Les journalistes du New York Times ou de Out in America commentent en 87 et 88 des enregistrements de Mozart ou un discours de Fidel Castro sont tout à fait représentatifs de l'univers sonore qui a remplacé les partitions minimalistes ayant d'abord attiré de Kersmaker. Plus loin, un discours enregistré de Fidel Castro autour de la politique internationale, plus ou moins inaudible, quand j'ai parlé avec elle, de Kersmaker n'a pas voulu révéler son identité ou son contenu. Les journalistes soulignent cette présence, mais insistent sur le fait que le document n'est pas surexposé. Et on l'a bien entendu, le bruit des pas de la danseuse contre le sol était bien plus audible que la voix en arrière-plan. Et ce n'est que très récemment, à l'occasion de la constitution de ces carnets de chorégraphes, qu'Intersat Kersmaker est revenu sur cet enregistrement. Il s'agit en réalité d'un discours prononcé par Che Guevara, et non pas Fidel Castro, devant l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1964, dans lequel il dénonce l'opération Dragon Rouge des forces armées belges au Congo, qu'il considère comme une marque de l'impérialisme et du néocolonialisme dans un pays ayant récemment conquis son indépendance. Et on entend quand même très distinctement le nom de Lumumba, qui a été un des constructeur de l'indépendance qui a été assassiné, sans doute avec le soutien des États-Unis, qui est reconnaissable même par un non-hispanophone. Et si le contexte dans lequel a été constitué cet enregistrement n'importait pas du tout à la chorégraphe, en revanche, l'effet produit par les caractéristiques formelles de l'archive est absolument central. Il me semble qu'on peut parler ici de la recherche d'un effet document, selon la définition qu'en donne Pierre-Yves Massé dans Musique et documents sonores. Pour lui, l'effet document, c'est la mise en valeur intentionnelle, à même l'objet donné comme document, de signes superficiels qui renvoient à une certaine façon de sonner typique, à un certain aspect, que l'on attribue par convention et habitude aux documents sonores. Ces signes superficiels apparaissent dans la matière même de l'enregistrement sans que l'on prête une attention particulière à son contenu. Et se produit alors ce que Pierre-Yves Massé appelle un effet de passé, qui se manifeste souvent dans les enregistrements sur cassette audio, caractérisés par une certaine qualité de restitution, souvent très basse. Le bruit de fond de l'archive devient l'indice du support, la marque du procédé de l'enregistrement. Et dans cet enregistrement du discours du Che, il y a, je pense, un double effet document. Il y a d'abord le grésillement du support qui produit cet effet de passé, mais il y a aussi la langue entendue, le ton employé, les inflexions, les applaudissements qui l'entrecoupent. Tout renvoie à une catégorie générique qui est celle du discours révolutionnaire. Et ce sont ces couches sensibles, plus que le contenu du discours, qui nous font sentir face à un document historique qui entre en sourdine dans ce monde fait de femmes qui attendent, soupirent, s'écroulent. Dans la composition globale de la pièce, l'enregistrement intervient au moment du dernier solo. La danseuse circule entre les chaises en tourbillonnant, en s'y asseyant et se relevant rapidement. Et pendant ce temps, les quatre autres danseuses sont assises, détendues, et la regardent. C'est la simple coprésence, le montage entre l'image et le son, entre la femme qui tourbillonne, les quatre autres immobiles, et un discours révolutionnaire qui crée des effets de sens, des connexions entre l'image visuelle et l'image auditive. Intersat Kersmaker défend dans ses compositions une logique qui ne soit ni narrative ni sémantique. Elle ne veut pas joindre les différents fragments qu'elle convoque. et surtout ne pas figer leur interprétation. Pourtant, ce montage crée des effets de sens puissants. Faire coexister plusieurs degrés de réalité dans un même espace pour opérer un décalage dans notre façon de regarder les choses, c'est ce qui caractérise le montage. Et c'est un mécanisme que Brecht, notamment, a beaucoup utilisé au théâtre, mais aussi dans son journal de travail, dans lequel figurent des images qui fonctionnent de façon assez semblable au montage d'Anter Zad Kersmaeker, si tant est qu'on puisse comprendre le discours en espagnol. Dans son journal de travail, Brecht écrit à côté d'une image de paysan ukrainien contraint à l'esclavage par l'occupant nazi. « Je déjeune vers 1 heure au bureau. Il fait chaud, mais nous avons des ventilateurs. » Il réunit ainsi dans un même espace deux ordres de réalité totalement différents, mais à peu près concomitants, sa situation propre et celle des paysans ukrainiens, et ainsi expose la violence du décalage dans les échelles de crise. Si l'on prête attention au discours dans Elena Zarya, et qu'on comprend l'espagnol, la superposition de l'image de la femme qui tourbillonne et de la voix qui parle et qui dit « Hoy en nombre de la défense de la raza blanca asesinan a millares de congoleños » aujourd'hui, au nom de la défense de la race blanche, on assassine des milliards, bon, il est peut-être un peu excessif, de Congolais. Cette superposition est particulièrement violente. Et c'est une violence qui est involontaire, qui n'a pas été voulue par la chorégraphe, puisqu'elle n'a pas prêté attention au contenu de ce discours. Pourtant, elle se livre elle-même à une activité interprétative lorsqu'elle commente rétrospectivement les effets provoqués par ce matériau, quand elle commente le contraste entre l'univers intime et la crise politique, et cette sensation d'urgence dans les propos du Che. Kersmaeker commente « Durant ce solo, on entend le discours de Che Guevara à l'arrière-plan, à très bas volume. Il s'agit d'un moment de mutation, d'ouverture au monde et au public. » Ou encore « Le malaise émotionnel, personnel et individuel qui existait au départ s'est transformé en une crise politique et en une inquiétude globale. » Dans le vocabulaire employé par la chorégraphe, on lit effectivement la conscience de créer un univers relativement clos sur lui-même, dans lequel le matériau documentaire est considéré comme une ouverture et une possibilité de dialogue avec le public. Je me demande ce qu'elle entend par cette possibilité de dialogue, étant donné que ce document est très peu audible et que rien ne vient expliciter quel est justement ce qu'il documente. Mais il n'est sans doute pas anodin que Kersmaeker ait choisi un moment où interviennent des applaudissements dans le discours du Che, créant un parallèle entre l'auditoire qui écoutait ce discours, l'auditoire des Nations Unies, et les spectateurs présents dans la salle qui applaudiront plus tard la pièce. Le son renvoie à l'idée d'une communauté à la fois mue et émue par un discours, un moment de rassemblement qui constituerait un contrepoint à tout ce qui renvoyait auparavant dans la pièce à ce sentiment de solitude et d'abandon. Mais ce que cet écart maintenu et revendiqué raconte, selon moi, c'est une interprétation très personnelle, on pourra en débattre, mais c'est aussi un certain rapport aux politiques d'une chorégraphe européenne dans les années 80. Que signifie mobiliser un discours symbole de lutte contre l'impérialisme sans savoir exactement qui en est l'auteur, à une époque qui est celle de l'expansion du néolibéralisme, qui est celle des années Reagan avec son discours « America is back », qui est celle de la fin annoncée du bloc soviétique et des espoirs révolutionnaires. Le monde apparaissant sourdine dans cet univers intime, auréolé de cet effet de passé, transporte à mon avis des idées très proches de la conception de la fin de l'histoire telle qu'elle a été écrite par Fukuyama, ou un monde dans lequel il n'y aurait plus d'affrontements politiques, les remous et les crises y apparaissant au loin. Donc, nous avions ici un exemple d'une trace du réel intervenant dans un monde clos. Et la voix du Che parlant du Congo était directement reconnaissable comme une archive historique, sans même qu'Anter Zad Kersmaeker ait à l'accompagner d'un appareil discursif. En revanche, en mobilisant un document beaucoup plus contemporain, constitué pour la création de la pièce, Faustin Lignekula, en 2006 et 2012, entre plus directement dans une démarche documentaire, dans laquelle il s'agit d'habiter la relation avec le document sonore. En 2012, il crée Sur les traces de dinosaures, une pièce au centre de laquelle intervient un long document sonore de près de 10 minutes dans un dispositif d'écoute particulier. La genèse de la pièce est assez complexe parce qu'elle accompagne la trajectoire de l'Ignekoula entre la France et le Congo entre 2001 et 2018 et elle naît de l'accumulation de différentes couches événementielles. Je vais essayer de les détailler brièvement. En 2001, le chorégraphe qui était parti en exil retourne en RDC et monte à Kinshasa une structure dans laquelle il créera tous ses spectacles, le studio Kabako. En 2001, le pays est encore en pleine guerre civile, le gouvernement contrôlant 20% du territoire, le reste étant aux mains de divers mouvements rebelles, donc qui s'en gagne la ville dont est originaire Faustin. En 2006, après la fin officielle de la guerre, ayant la possibilité de faire des allers-retours entre l'Europe et qui s'en gagne, il crée The Dialogue Series 3, Dinosaur. Cette pièce est l'une des premières des studios Kabako. Elle naît des retrouvailles de Faustin avec le Congo, de l'envie de construire une pièce avec les camarades de ses aventures théâtrales zaïroises, parce qu'au tout début des années 90, il avait créé un atelier de théâtre à Kisangani, ainsi qu'avec deux très jeunes hommes qu'il rencontre à son retour, un contre-ténor et un danseur de hip-hop, Dinosaur, qui a donné son nom à la pièce. Nous avons donc deux générations qui se rassemblent, l'une qui a connu le Zaïre de Mobutu, la RDC de Laurent Désiré Kabila, l'autre ayant grandi plutôt après l'assassinat de Kabila. Ils construisent ensemble The Dialogue Series 3, Dinosaur à Kisangani, et le jouent en 2006-2007 à Vienne, à Bruxelles et au Festival d'Avignon. À cette époque-là, l'un des camarades de Faustin est enfermé dans la prison de Makala à Kinshasa. Il s'agit d'Antoine Vumilia Muindo, dit Vumi, un révolutionnaire ayant participé à la rébellion qui a conduit à la chute de Mobutu en 1996 et donc qui a eu un poste dans le gouvernement de Laurent Désiré Kabila et qui a été arrêté pour haute trahison au moment de l'assassinat de Kabila en 2001. Donc Vumi est en prison. Mais Faustin affirme construire des pièces people-specific, comme d'autres pratiquent le site-specific. Impossible de réaliser cette pièce sans son ami et écrivain, il se débrouillera donc pour qu'il soit présent. Il fait donc parvenir à Vumi en prison un appareil photo et un magnétophone pour que sa voix, tout comme ce qu'il voit, mais d'abord sa voix, il me semble que c'est le plus important, soit présent sur scène. L'enregistrement naît de l'impossibilité d'avoir cette archive vivante sur le plateau. Et en 2012, Faustin Ignekoula propose une reprise de la pièce. Non pas une reconstitution, mais un retour sur, une réactivation de la pièce dans un contexte qui a évolué. L'expérience deviendra Sur les traces de dinosaures, une pièce qui continue durablement à chercher ses traces puisqu'elle est régulièrement jouée, en 2016 à Lisbonne, en 2017 au Théâtre de Paris-Villette, là où j'ai pu la voir, et à la New York University. Sur les traces de dinosaures, la pièce à partir de dinosaures, entrelace les reconstitutions de fragments de la pièce originelle avec des discours rétrospectifs sur la façon dont elle était construite en 2006, sa dramaturgie, les matériaux utilisés, le contexte immédiat. En 2012, au moment de la première de Sur les traces, Vumi a réussi à s'évader de prison. Il est donc présent sur scène aux côtés de ses camarades qui sont tous plus ou moins exilés en Europe. Pourtant, l'enregistrement est toujours présent dans la pièce. Ce qui a été constitué pour pallier à l'impossibilité de présence physique survit dans les versions suivantes en tant qu'archives. Archives de la première pièce, mais également d'une histoire du Congo. Et Faustin Ignekoula est un chorégraphe qui se dit obsédé par la question de l'histoire. En arrivant en Europe, il a été frappé à quel point le Congo prenait peu de place dans les mémoires et les enseignements, alors qu'à rebours, l'Europe constituait le socle absolu de l'enseignement dans les histoires congolaises. L'histoire du Congo commençait en 1482 avec sa découverte par les Portugais. La question qui traverse son travail est alors la suivante. Comment construire une histoire du Congo alors que les archives conservées sont celles des vainqueurs? Quels outils pour construire l'histoire quand quand les outils qui restent sont des documents écrits, des descriptions des colonisateurs, des discours d'hommes illustres. Où est l'histoire de ceux qui n'ont pas laissé de traces ? Sur les traces de dinosaures, tente de répondre à ces questions en devenant non seulement l'espace de conservation d'une archive, mais également un espace de présentation et d'activation, sans cesse renouvelé. Les deux pièces, Dinosaures puis Sur les traces de dinosaures, se présentent littéralement comme des monuments scéniques à la mémoire d'un homme. Des monuments précaires, parce qu'en constante mutation, qui sont faits de pièces hétéroclites qui se réagencent à chaque reprise, mais dont le centre reste le même. Faustin Lignécoula y explique qu'il a voulu créer un requiem pour Kabako. Kabako, c'est un poète, ami de la troupe, qui est mort de la peste au début des années 90, quelque part entre le Zaïre et l'Ouganda, enterré par des inconnus. La pièce a l'ambition de devenir la tombe de Kabako, de hisser un poète paria au rang de personnage historique. Et par cette évocation du passé, de parler des vivants, des acteurs présents sur scène, de leur relation à l'histoire du Congo. Elle rassemble donc des matériaux divers liés à cet homme, Kabako, pour construire un monument précaire. Tous les corps des danseurs, acteurs, chanteurs s'agencent autour d'un objet central qui est un coffre en fer rouge rempli de papiers qui seront éparpillés sur le sol, qui sont soi-disant les écrits du poète mort. Évidemment, ce sont des archives absolument fantasmées, des faux documents. Et ce coffre présent, et ce coffre en fer rouge, est un objet de jeu qui se métamorphose tout au long de la pièce, qui est à la fois ce coffre qui contient les poèmes, qui est aussi la tombe de Kabako et qui deviendra aussi une tribune à laquelle vont se faire des discours politiques. Les fausses archives côtoient donc des documents authentiques, les fragments de discours, l'enregistrement de Vumi, des photos de la prison de Makala et des vidéos tournées à Kisangani, qui sont présentes dans la première version, mais seulement évoquées dans la deuxième version. Et j'ai l'impression qu'on peut aussi employer ce terme de monument et monument précaire dans la définition qu'en fait Foucault dans l'archéologie du savoir, pour définir des démarches historiennes qui conçoivent le document non pas comme outil pour reconstituer un passé auquel on accéderait en toute transparence, mais comme des énoncés forcément toujours découpés, agencés par l'historien. Le monument, c'est avant tout une construction contemporaine qui affirme une position spécifique face à une partie du passé, que ce soit un hommage ou une critique, mais dans tous les cas un discours. Et en présentant ces documents-là dans le cadre d'un requiem pour un mort qui n'a pas connu la première guerre du Congo et les conflits qui en ont découlé, Lignécoula vient entrelacer de multiples niveaux de temporalité et questionner les rapports entre les générations et la question de l'héritage. Qu'est-ce qui nous a été laissé ? Pour situer le moment dans la pièce où intervient le document sonore, juste avant, on a une matière documentaire qui intervient à travers des fragments de discours politiques. Cependant, alors que l'effet document, le support de l'archive, vient donner une dignité au contenu, une empreinte d'un passé à la fois conservé et fragile, patiné par le temps, ici les discours d'hommes politiques sont interprétés par les performeurs. Ils font véritablement corps et voix avec ces bouts d'histoire passés à la postérité, mais pour les singer et les parodier. Ils sont quatre autour de cette malle de Kabako devenue tribune et font suivre chaque énoncé d'une danse et de cris de liesse exagérés. Chaque déclaration est légendée. Elle est accompagnée d'une légende qui figure sur un écran en fond de scène. Mais ce sont des légendes tronquées puisque ceux qui les prononcent ne sont jamais nommés. Ils sont tout le temps désignés par leur fonction. Sont ainsi mentionnés le président de la République du Zaïre, 65-97, pour accompagner un texte qui fête le Zaïre uni autour d'un père, d'une mère et d'un chef. Il s'agit d'un discours de Mobutu. L'archevêque de Kisangani en 92, qui commente la conférence nationale souveraine comme une possibilité de réconciliation du peuple avec lui-même, et d'un opposant historique qui, évidemment, apparaît comme Kabila, désignant Mobutu comme le mal du Zaïre. Ce sont des hommes politiques qui, à la scène, sont privés de nom et réduits à leur fonction et à leur discours. En revanche, le discours du vaincu, de celui qui a été enfermé, qui a dû s'exiler, apparaît dans toute la dignité que peut conférer une archive historique. Dans, sur les traces de dinosaures, la liesse provoquée par ces discours est brutalement stoppée par Vumi en 2012, quand il est présent sur scène. Puis Faustin Lignécoula, dans son rôle de conteur, prend le micro pour détailler l'histoire de Vumi. Sa foi dans les slogans révolutionnaires de Kabila, son intégration de l'armée rebelle, sa participation au Conseil national de sécurité, l'assassinat de Kabila, dont il a été accusé, la prison dans laquelle il a enregistré en 2006 le texte que nous allons entendre juste après. Passeur entre la scène et la salle, Faustin énonce l'identité de cet homme alors que celle des grands noms du Zaïre et du Congo était réduite au minimum. Les performeurs applaudissent, se réunissent autour de cette malle rouge qu'il porte à l'avant-scène. Faustin la renverse, ouvre les papiers qu'elle contient. Il tourne le micro et oriente le projecteur vers la cascade de feuillets, comme pour qu'à leur tour, ils aient le droit de produire un discours, pour que la parole publique ne soit pas réservée aux Mobutu, Kabila et archevêque de Kisangani évoqués juste avant. Les performeurs se mettent à applaudir et ces applaudissements sont adressés au coffre, à la parole du poète vaincu et à celle qui va suivre de Vumi. C'est à ce moment-là qu'intervient le document sonore, les applaudissements se superposant à la voix de Vumi, ce qu'on a entendu juste après le document du Tché, pendant quelques secondes, alors que les six hommes quittent le plateau, absolument. Les premiers instants de l'enregistrement sont peu audibles, puisque les applaudissements s'y superposent, puis, face au plateau vide, la lumière baissée, l'auditeur peut se concentrer sur cette voix de Vumi qui emplit l'espace. Là, ce qui est important aussi, c'est que dans les pays non francophones, l'enregistrement est surtitré. Preuve que les mots ne servent pas de trame sensorielle, mais doivent être écoutés pour ce qu'ils signifient. La lumière baisse, mais le plateau reste sensiblement éclairé, pour qu'on ne perde pas non plus l'image de cette scène vide. Plongée entièrement dans le noir, on pourrait être tout à fait là-bas, dans la prison de Makala, avec Vumi. Cette séquence, en refusant de à la fois d'effacer la présence de la scène, donc de la situation de représentation, mais aussi en enlevant les corps des performeurs, en refusant de faire corps avec le document et en l'isolant, en crée les conditions d'écoute. Et pour ce qui est du contenu de l'enregistrement, qui pourrait être un témoignage, cette construction est à nuancer parce que Vumi, bien qu'il s'enregistre au présent dans la prison de Makala, ne s'attarde pas du tout sur son quotidien dans la prison. Il ne s'agit pas d'un témoignage sur la condition de prisonnier, mais plutôt d'un regard rétrospectif sur sa trajectoire. C'est un discours qui n'est pas centré sur l'intimité de l'individu, mais qui passe par une montée en généralité et qui questionne la fabrique des subjectivités révolutionnaires. Il réalise un retour sur son évolution du jeune artiste plein de rêves qui se retrouve à accepter des discours théoriques simplistes de ses supérieurs et qui se fond dans la poésie des exercices militaires, la lutte armée devenant en elle-même une quête du beau. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'entre 2006 et 2012, et plus encore en 2017, le statut de ce document a changé. En 2006, Vumi était effectivement enfermé à Makala et l'enregistrement parvenait à l'écoute du public quasiment au présent. Enregistré quelques mois auparavant, on avait conscience que ce qu'on entendait, c'était la parole d'un prisonnier. En 2012, Faustin présente cet enregistrement comme les mots d'un revenant, effectivement de quelqu'un qui est revenu de la prison et qui a réussi à s'en évader et qui est là présent au plateau. Et du fait de l'écart temporel, ce document prend d'autant plus le statut d'archive historique auréolé de cet effet de passé. Et il y a un pas de plus qui est franchi en 2017, parce que en 2017, donc Vumi est exilé en Suède, et c'est un moment de fort afflux de réfugiés syriens en Suède. Et en fait, donc il a son statut de réfugié, mais les services délivrant les visas pour les étrangers, parce que même si un étranger a le statut de réfugié dans l'espace Schengen, il ne peut pas se déplacer à sa guise, il a besoin d'une autorisation de voyage. Comme les institutions étaient surchargées par cet afflux de migrants à traiter. Vumi n'a pas pu obtenir son autorisation de déplacement et n'a pas pu, en 2017, à la Villette, venir jouer dans Sur les traces de dinosaures. Donc, Faustin a trouvé une solution. Il fait intervenir Vumi par Skype, qui est présent avec nous et qui joue sa partition en vidéo. Donc là, on a encore une autre couche, l'effet de passé de l'archive historique et l'effet de présent absolu par cette intervention de la conversation Skype. Je reviens aux documents sonores et même si les performeurs quittent la scène et nous laissent entendre ce document pendant plusieurs minutes sans qu'il ne se passe rien au plateau, il y a néanmoins une relation qui se tisse entre ce document d'un passé proche puis plus lointain avec le présent de la scène. Et là, j'ai l'impression qu'on rejoint un peu ce que les deux pôles que Frédéric décrivait et je voudrais voir comment ça se construit. Après le nécessaire moment d'effacement des corps, pour que rien ne vienne interférer avec l'écoute et qu'on se plonge vraiment dans ce discours de Vumi, les six hommes entrent lentement sur la scène, mais pas au milieu. Ils l'abordent, ils restent à la lisière. Ils ont le visage et les mains peints en blanc, comme des masques qui effacent leur identité singulière, qui les fait pénétrer dans un espace du rituel. Ils s'avancent lentement vers le public, en ligne, les bras ouverts. Et ils arrivent au bord du plateau, une fois que Vumi a terminé sa lecture. À ce moment-là, Vumi commence un chant, il chante une phrase, puis la reprend, rejoint par les voix au présent des performeurs. Il y a donc une connexion sonore par le chant. Tous les danseurs en ligne sont immobiles, les six danseurs, et acteurs et chanteurs, sauf Dinosaure, qui est ce jeune danseur de hip-hop, qui a donné son nom à la pièce. Dinosaure, le corps de Dinosaure est au centre, il est parcouru de vibrations et finalement s'effondre derrière le coffre rouge qui était resté en avant-scène. Et ce que raconte ce mouvement, ça naît de toutes les informations qu'on a pu collecter au fur et à mesure, des informations fragmentaires laissées par la pièce. Dinosaure a donné... Dinosaure avait en 2012 et à peu près en 2016... l'âge qu'avait Vumi quand il a rejoint les troupes rebelles. Dinosaure a donné son nom à la pièce parce qu'il s'était présenté à l'Ignekula comme Dinosaure en disant « Je m'appelle Dinosaure, pourquoi ? Parce que je suis le dernier de ma race. » Donc un discours qui introduisait quand même quelque chose de radicalement différent que la foi en un possible futur révolutionné par une action, donc une conscience assez pessimiste des possibilités d'évolution. Et Dinosaure, pour qui Vumi avait écrit un poème depuis sa prison de Makala. Et c'est ce corps particulier, le corps de Dinosaure, qui a pour héritage les multiples crises traversées par le Congo, la succession de guerres, d'assassinats, qui réagit physiquement aux documents sonores, en vibrant et en s'écroulant. Dinosaure est une archive vivante, qui n'a jamais pris la parole dans la pièce, qui entre en communication avec cette archive sonore, comme une façon de replacer un individu dans une trajectoire historique. Et on observe ici la façon dont peuvent se croiser le corps archive et les documents matériels. Alors qu'un témoignage effectué directement sur la scène peut provoquer un effet de réel très fort, le document sonore, en donnant forme et matière à un élément issu d'un passé proche ou lointain, vient être finalement un interlocuteur précieux pour un présent, le présent de la performance, comme le présent du contexte global de réception. Il permet que se créent des espaces de questionnement, d'aller-retour entre le ici et le hors-champ. Et je voudrais conclure en ouvrant des réflexions qui ont été provoquées aussi par ma lecture de l'ouvrage de Pierre-Yves Massé, « Musique et documents sonores », parce que Pierre-Yves Massé prenait pour point de départ l'idée que les sons indiciels en musique constituaient une intrusion du réel dans le monde de l'abstraction, que la photographie et la cinématographie avaient donné naissance à deux arts, le cinéma et la photo, alors que la phonographie, l'enregistrement des sons, n'avait donné naissance à aucun art, mais avait affecté un art des sons déjà existant, la musique. Il considère le document sonore comme un élément donné comme hétérogène, désigné à l'intérieur de l'espace artistique comme lui étant étranger, relevant d'un régime de perception différent, Mais toute sa thèse sert finalement à comprendre les processus de musicalisation des documents sonores, la façon dont ils s'intègrent dans une composition, dont s'effacent la trace, l'origine. Et il termine son ouvrage en parlant d'une musique qui documenterait le rapport à son propre réel, celui de sa fabrication et de sa matière. Et je me demandais si on pouvait effectuer un parallèle entre la façon dont ça se passe en musique et en danse. Le document qui devient musique parle le fait du travail sur le sonore, qui est le point de référence commun, est assez compréhensible. Mais dans une forme qui mobilise déjà des matériaux hétérogènes, à la fois du son mais aussi du corps, etc., est-ce que le document sonore peut entièrement devenir danse ? Je ne suis pas sûre, justement, à cause de cette hétérogénéité des matières. Et que, justement, les démarches actuelles autour du document travaillent à une, non pas à une intégration absolue et à un faire corps, justement, mais comment faire corps à partir de ça, créer un autre corps, laisser la parole, prendre le temps d'écouter véritablement. Et de réagir à ce que provoque cette écoute sur la scène avec des corps vivants qui sont les corps des danseurs. Voilà. Et j'avais aussi des images de...